Avec Saïd Bouamama, sociologue, militant antiraciste de longue date et membre du Front uni des immigrations et des quartiers populaires, le FUIQP, qui était l'une des organisations à appeler à manifester à Lille hein, contre le racisme et les violences policières, notamment la semaine dernière. Alors, quel est votre regard général sur ce mouvement global contre les violences policières?
D'abord, c'est un mouvement qui vient de loin. En réalité, on assiste aux résultats de décennies de mobilisation qui ont tenté d'alerter sur ces questions-là. Et l'affaire George Floyd est un déclencheur, ce n'est pas une cause. La cause, elle est beaucoup plus profonde. Elle est dans l'accumulation aux États-Unis, comme en France, comme dans d'autres pays, de morts, de violences, de blessés. Issus des pratiques de la police et issus en particulier d'une accélération de ces pratiques depuis une trentaine d'années, depuis nouvelles politiques de gestion de l'ordre et de contrôle des quartiers populaires. Et donc ce mouvement vient montrer, et un peu comme la goutte qui fait déborder le vase, vient montrer l'ampleur de ce qui est ressenti dans les quartiers populaires, de ce qui est ressenti par une partie de la population et qui par ses contacts avec des populations qui sont moins stigmatisées, ben par ses contacts, a pu faire passer la prise de conscience que nous étions devant un problème de fond, devant un problème systémique. Ce qui est marquant dans les manifestations aux États-Unis comme en France, c'est que ça n'est pas la première fois qu'on a des manifestations de grande ampleur, mais c'est la première fois qu'on a des manifestations dans lesquelles la population est aussi mixte, dans lesquelles blancs comme noirs aux États-Unis, ici personnes originaires du Maghreb, d'Afrique noire ou d'Europe sont ensemble. Et donc ce qu'il y a de nouveau, c'est ce sentiment d'une prise de conscience plus globale et qui est le résultat de ces mobilisations invisibles qui parfois donnaient l'impression de ne déboucher sur rien, mais qui en réalité faisaient lever les consciences. On voit bien dans les manifestations aux États-Unis comme en France également que le message est passé. On voit des photos, on voit des slogans qui étaient des slogans qui étaient dans les manifestations minoritaires il y a quelques années, qui sont repris aujourd'hui par des jeunes de 15 ans, 16 ans, etc. Ce qui veut dire que tout ce travail invisible de mobilisation, eh bien, on a l'impression qu'il a été entendu par une nouvelle génération et que c'est elle qui est dans la rue aujourd'hui. Parce que la dernière caractéristique de ces manifestations aux États-Unis comme en France, c'est bien entendu qu'elles sont plurigénérationnelles, mais avec une place de la jeunesse particulièrement importante. Et c'est un trait qui est essentiel, c'est comme si les nouvelles générations venaient alerter sur le monde qu'elles ne voulaient pas pour elles dans l'avenir. Et elles venaient alerter un peu comme pour le climat, nous dire, mais non, ce monde-là, on n'en veut pas. Et elles se heurtent à l'état d'une société, elle se heurte à l'état d'organisation d'une société, de ses appareils, comme l'appareil policier, qui lui a des fonctionnements, a des pratiques, qui sont malheureusement marquées par justement le contrôle au faciès et la violence.
Quand on regarde un petit peu aussi ce mouvement, ça peut faire penser par certains aspects au mouvement MeToo. Alors les idées, les arguments sont là de longue date, mais il y a un événement déclencheur qui frappe l'opinion publique, qui mobilise et fait boule de neige, et avec cette impression que les choses ne seront plus jamais les mêmes après.
Oui, alors effectivement, c'est très très similaire. Ça souligne que nous sommes devant, avec les réseaux sociaux, avec la musique également, devant de nouveaux mécanismes de conscientisation et de prise de conscience, et que l'événement, le déclencheur, est un élément qui très vite circule. On voit bien les manifestations, ça a été les jeunes dans leur propre réseau, ça n'a pas été les réseaux militants qui ont été chercher la population. Donc on voit bien qu'il y a de nouveaux mécanismes de socialisation politique, de nouveaux mécanismes de mobilisation également. La limite de cela, c'est que rien ne peut garantir, ni pour MeToo d'ailleurs, ni pour le climat, ni aujourd'hui pour les violences policières, que ces mobilisations, on va dire, rapides, percutantes, ne soient pas fugaces. Pour MeToo, on a bien vu, après une prise de conscience forte, après un mouvement très fort, bien, on a quand même une tendance de la société à revenir, à reprendre son rituel, même si rien ne revient jamais comme avant. Et bien, sur les violences policières, c'est la même chose. C'est dans la durée, hein, que l'ampleur de la transformation apparaîtra ou non. Si ce sont des manifestations sans lendemain, l'institution continuera à prendre sa place. D'ailleurs, elle commence à réagir et les manifestations de policiers sont des manifestations pour que surtout rien ne change, pour que surtout on ne touche pas aux structures même de l'appareil policier, à la formation des policiers, à leur armement, etc. C'est toutes ces questions-là qui sont posées au travers de ces violences policières.
Puisqu'on parle de contre-réaction, bon, moi j'écoute France Info, vous me direz, je ne devrais peut-être pas écouter autant France Info, mais j'entends beaucoup d'éditorialistes ou de commentaires qui nous disent, bon, les États-Unis c'est une chose, la France c'en est une autre, on ne peut pas comparer. Là-bas, la police est militarisée, ce qui n'est peut-être pas le cas en France. Là-bas, il y a eu un esclavage plus ancré, la ségrégation jusque dans les années 50-60. En France, il n'y a pas ça. Alors comment vous voyez ce double regard, ce double discours sur États-Unis et France?
D'abord, personne n'a comparé. Il n'y a que les commentateurs et journalistes qui viennent nous dire ne comparez pas, comme si les manifestants comparaient. Ce que font les manifestants, c'est qu'ils mentionnent des analogies. Mentionner une analogie, c'est montrer un élément commun. Ça n'est pas considéré que tout est commun. C'est montrer un élément commun dans... le type de pratique physique de la police, la clé d'étranglement, où on a vu ici des personnes mourir avec exactement la photo quasi identique que celle qu'on a eue pour George Floyd. Ce qui est souligné, c'est les pratiques de non-peine lorsque ça passe devant des tribunaux, ou d'impunité totale, ou de requalification en décès involontaire, en homicide involontaire. Donc c'est des analogies qui sont repérées. Mais je n'ai entendu aucun manifestant, aucune association, aucune organisation militante venir dire « la situation en France est la même qu'aux États-Unis ». Une fois qu'on a posé la question des différences, on peut regarder ce qui ressemble. Et il y a effectivement des analogies. D'abord, aux États-Unis comme en France, il y a un soubassement historique profond des violences policières. On a beau nous dire qu'aux États-Unis c'est plus ancien, c'est tout simplement oublier que la France a aussi été un pays esclavagiste et qu'un certain nombre dans l'institution policière, a participé à l'institution esclavagiste. Ils ont été dans les colonies des personnes qui assuraient l'ordre colonial à côté des militaires, à côté de l'organisation des colons, etc. Et donc il y a un passé très lointain, mais il y a aussi un passé encore plus prégnant dans une actualité plus récente. Il faut se rappeler qu'entre 1939 et 1945, la police française a participé avec un taux d'obéissance qui est inquiétant, qui est effrayant même, à la déportation des Juifs sans ciller. Et il faut se rappeler également que au moment de la libération, en 1945, très peu de policiers ont été éliminés de la police. C'est-à-dire que l'institution policière est sortie quasi indemne de sa collaboration avec Vichy. Les mêmes qui ont déporté des Juifs et étaient actifs dans la déportation des Juifs ont pu reprendre leur travail tranquillement en 1945. Et ils l'ont repris avec aussi cet héritage-là. Cet héritage d'impunité. Ils avaient 20 ans, 30 ans, 40 ans. Quelques années plus tard, on leur ordonne d'aller tirer sur des centaines d'Algériens qui manifestent pour l'indépendance à Paris, le 17 octobre 1961. Et on constate quoi? On constate que ce vieil héritage d'obéissance à des ordres, y compris à des ordres de ce type-là, est reproduit jusqu'à ce que l'on sait, le massacre en plein Paris. Autrement dit, dire qu'aux États-Unis il y a une histoire et qu'en France il n'y en a pas, c'est être complètement soit hypocrite, soit d'avoir une méconnaissance complète de l'histoire. En France aussi, il y a une histoire profonde du lien entre la police et violence arbitraire, du lien entre la police et violence raciste. Ça, c'est sur le premier point de comparaison. Sur le second point de comparaison, on a une évolution des politiques aux États-Unis et en France qui se ressemblent fortement. D'ailleurs, dans le débat politique français, très souvent, les États-Unis ont été pris comme modèle pour réformer la police ou pour exiger un certain nombre de choses pour la police. Rappelons-nous, Sarkozy justifiant sa politique de tolérance zéro en prenant comme exemple l'exemple états-unien. Rappelons-nous les débats où hommes politiques de droite et de gauche invoquent les États-Unis pour souligner la nécessité d'une sévérité lors des contrôles sur le deal, etc., en considérant que c'était le cœur de la délinquance et le cœur des problèmes. Bref, on a des politiques qui se sont inspirées en particulier de la dimension états-unienne. Quelles sont ces politiques? on peut en repérer au moins trois qui sont aujourd'hui parlantes et qui sont des sources de problèmes dans le fonctionnement quotidien de la police. La première, c'est la question, et je parle bien de politique et pas de policiers, les policiers exécutent des politiques. Le premier point, c'est la question du contrôle de certains territoires. L'idée que les quartiers populaires seraient des quartiers dangereux, des quartiers dans lesquels vit une population qu'il faudrait contrôler plus que d'autres, avec donc des pratiques qui est d'envoyer des policiers en nombre pour des opérations collectives dans lesquelles il y a des pratiques qui sont des pratiques qui ressemblent à la guerre. D'ailleurs, il y a un vocabulaire de guerre, reconquérir les quartiers, les opérations coup de poing. Ce type de politiques sont communes aux États-Unis comme en France. Et c'est la même inspiration qui a conduit de l'une à l'autre. Et la même méfiance vis-à-vis des populations les plus pauvres. Aux États-Unis, les Noirs, ici, parmi les plus pauvres, il y a effectivement, dans les quartiers populaires, une surreprésentation de Noirs, d'Arabes, etc. Non pas parce qu'ils sont Noirs ou Arabes, mais tout simplement parce que l'immigration s'insère par le bas dans la société, et donc on les retrouve dans les territoires les plus pauvres et les quartiers les plus pauvres. Et donc ce choix d'un contrôle social, cette idée d'un contrôle par les forces de l'ordre de certains territoires, conduit inévitablement à des contrôles au faciès à répétition, des contrôles qui sont vécus comme de l'humiliation et de la provocation, et donc des tensions entre policiers et jeunes qui se terminent effectivement dans des rixes, les rixes avec certains armés et d'autres qui ne le sont pas, et on a les résultats qui sont des morts et qui sont des blessés. La seconde grande dimension commune, c'est la question des armes. Le citoyen quelconque a pu remarquer qu'il se souvienne simplement comment étaient armés les policiers il y a quelques décennies, il y a 20 ans, pour ceux qui ont 40 ans aujourd'hui, qu'ils se rappellent le policier de leurs 20 ans. Il avait un revolver. Aujourd'hui, parfois, on a l'impression d'être en pleine scène de guerre, à les croiser avec des images. Les parents devraient commencer à s'inquiéter et se poser la question, mais qu'est-ce que ressent mon enfant de 10 ans, mon enfant de 8 ans, quand il croise dans la rue des personnes avec des mitrailleuses, avec des armes de guerre, etc. Or, c'est avec ce type d'armes que l'on va dans les quartiers populaires, qu'on l'on contrôle au faciès, etc. Et donc, on a là des dimensions où on a banalisé une militarisation de l'armement. Auparavant, on pouvait dire qu'il y avait une distinction entre l'armement du policier et l'armement du militaire. Là, on assiste à une dimension de militarisation de l'armement. Ce qui fait passer l'idée que nous sommes en guerre et qu'il y a une partie que les forces de l'ordre sont en guerre contre une partie de la société. Et puis, le troisième type de parallèle que l'on peut faire, même si c'est des histoires différentes, mais les mêmes inspirations ont conduit au même résultat, les mêmes causes donnent les mêmes effets, eh bien, on a cette idée qu'il faut mater une population. Il faut mater une population. Et donc, avec cette idée d'un rapport de force entre le policier et la personne qui est contrôlée. Les jeunes le décrivent très fortement dans mes travaux, dans quelques-unes de mes enquêtes. Une des premières choses qu'invoquent les jeunes, c'est le tutoiement de la police. Cette idée que dès l'entrée en contact, il y a une hiérarchisation qui est mise en place avec un sentiment de négation du côté de la personne qui est contrôlée. Je ne parle même pas des insultes racistes, parce que là, c'est tellement explicite. Mais le comportement, le tutoiement, cette idée d'avoir en face de soi des personnes qui ne méritent pas qu'on les considère comme des citoyens, qui sont a priori des coupables, ça conduit effectivement à des contrôles d'identité qui sont sans commune mesure entre quelqu'un qui a hérité d'une couleur blanche et quelqu'un qui a hérité d'une couleur noire. Les dernières enquêtes indiquaient que c'était de 1 à 20. Autrement dit, une personne qui est de couleur blanche à 20 mois va se faire contrôler 20 fois moins qu'une personne qui est noire. Concrètement, c'est une moyenne. Concrètement, ça veut dire que dans certains quartiers, c'est pas 20 fois, c'est 30 fois, alors qu'ailleurs, c'est un peu moins. C'est moins. Et donc, dans certains quartiers, c'est vraiment l'impression d'être dans le harcèlement permanent. Ça, aux États-Unis, et bien, la population le dit aussi. Pour ceux qui regardent un peu la télé, les séries télévisées sur les USA le montrent très bien. On voit bien comment certaines populations se font contrôler et d'autres moins. Et donc, on a bien cette dimension-là d'une mise sous surveillance. On voit bien, il ne s'agit pas d'amalgamer. Il s'agit de d'interroger les choix qui ont été faits, de contrôle d'une société qui donne ces conséquences-là.
Choix politique et choix organisationnel, mais il y a aussi, ben, par exemple, si on prend l'affaire là, de ces échanges sur les réseaux sociaux de policiers clairement fascistes, nazis, suprémacistes blancs, là, ça pose cette question de choix individuel des policiers, de l'étendue du racisme dans la police. Hein, c'est un peu la question que se pose la société, à quel point... la police est touchée par ça, par le racisme.
Alors, bien entendu, tous les policiers ne sont pas racistes. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Il faut rajouter, bien entendu, il y a une partie non négligeable du corps de police qui est imbibée de mentalités, de représentations, d'images, de théories qui viennent de l'extrême droite. D'un policier à l'autre, ça peut aller de l'adhésion ouverte au fascisme, simplement partager l'image globale d'un danger que construiraient certaines populations. Mais aujourd'hui, le plus grand danger est le déni de cette réalité. Et il est malheureusement assez massif dans la classe politique, assez massif dans les médias, etc. Le déni de cette réalité, c'est dénier que, justement, au fur et à mesure que l'on confie à la police des tâches qui ne relevaient pas de maintenir la paix, mais qui revenait justement de devenir des agents de l'ordre. Hein, on est passé de gardien de la paix à agent de l'ordre, ça n'est pas rien. Au fur et à mesure que se transformait la fonction sociale de la police, donc les objectifs que donnaient les différents pouvoirs politiques à la police, et bien au fur et à mesure que cela se faisait, ça entrait en connivence. Avec quoi? Avec une idéologie qui est l'idéologie fasciste, qui va plus loin, qui est à la limite plus vrai que la photocopie, et donc qui faisait écho aux policiers. À chaque fois que l'extrême droite parle à la télé pour dire qu'il faut aller encore plus loin, ça vient conforter ces images. Et je le soulignais tout à l'heure, en plus, on a une longue histoire d'impunité, une longue histoire où des expériences de fascisation, des moments de fascisation, n'ont pas été suivis de correction, d'épuration, de transformation, etc. Ceux qui ont contribué à la déportation des Juifs auraient dû être dans une république éliminés de l'institution policière, parce qu'effectivement, ça n'est pas une petite chose que de participer à la déportation d'enfants, à la déportation de familles, etc. Ils ont repris tout simplement leur travail. Ceux qui ont participé au massacre de 1761 ont été bénéficiaires d'une impunité totale, voire même d'une négation de ce massacre. Toutes les affaires qui sont arrivées devant la justice, on est parti a priori d'une présomption qu'ils ne pouvaient pas être coupables. Et ça explique cette longue litanie de jeunes morts, parce que ce sont des jeunes, de jeunes morts sans qu'il y ait aucune peine. Il y a donc un terreau favorable à la police, à l'extrême droite dans la police. Et l'extrême droite l'a très bien compris. Elle a considéré la police comme étant un des marchepieds de l'accès au pouvoir. Et ça n'est pas nouveau. Cela fait plusieurs décennies qu'il y a une politique spécifique de l'extrême droite en direction de la police. Si vous regardez à chaque fois qu'il y a prise de parole de l'extrême droite sur une question sécuritaire, il y a une adresse particulière aux policiers. Il y a cette idée qu'il y a des policiers qui nous écoutent, il faut donc faire attention. Et d'ailleurs, les réactions aux manifestations d'aujourd'hui sont du même type. On voit bien comment Marine Le Pen intervient sur ces manifestations. Elle s'adresse aux policiers. qu'il y a troisièmement des scandales qui ont déjà éclaté dans le passé sur la place, sur des organisations internes à l'institution policière clandestine de policiers. Il faut se rappeler, dans les années 70, lorsqu'il y a des attentats contre un certain nombre d'établissements dits algériens, le consulat d'Algérie à Marseille, etc., qui font plus de 10 morts, qu'on a des policiers qui font partie de ces groupes d'ultra-droite, etc. Et donc, si je décris tout cet aspect historique, c'est qu'il ne faut pas faire comme si on découvrait aujourd'hui cette place de la police. Il y a un nombre important de policiers imbibés de ces images et de ces représentations. Et il y a aussi à l'intérieur des organisations. Cela se révèle en particulier, on a un indicateur qui est indéniable aujourd'hui, qui sont tout simplement le vote des policiers. Aux dernières élections régionales, plus de 50% des policiers ont voté Rassemblement National. Autrement dit, imaginez une autre catégorie professionnelle dans laquelle on aurait 50% qui ont voté Rassemblement National. On aurait tout de suite des analyses, des commentaires, des débats, etc. Là, il y a une espèce de gêne qui empêche d'avoir un débat serein. Qu'est-ce qui fait qu'une profession, on arrive à voter pour 50% pour un parti politique d'extrême droite? On devrait avoir toute la classe politique qui donne ses explications et fasse ses propositions. Eh bien non, parce qu'il y a une peur de l'institution policière, une peur de la réaction des policiers. Et en particulier parce que ces policiers ont déjà montré qu'ils étaient capables de se mobiliser alors qu'ils n'en ont pas le droit normalement. On a eu des manifestations de policiers sans réaction. Or, au moment de l'engagement dans la police, on s'engage à ne pas utiliser son uniforme à des fins politiques. Il y a eu des manifestations, il y a eu des... et rappelez-vous, des manifestations parfois clandestines et parfois avec des pancartes qui étaient des pancartes qui appelaient quasiment à un coup d'État fasciste. Et donc, on a, et c'est effectivement cette réalité dans la police. Et donc, non, la police, tous les policiers ne sont pas violents ou racistes, mais le racisme est une des caractéristiques de l'institution policière. Il faut inverser les choses, parler de l'institution et pas simplement des policiers, parce que si l'institution n'était pas, marquée par le racisme en tant qu'institution, par les politiques et les objectifs qui lui sont donnés, eh bien les policiers racistes n'y resteraient pas. Aujourd'hui, on est dans la situation exactement inverse. C'est le policier non raciste, c'est le policier antiraciste, c'est le policier tout simplement républicain qui a du mal à rester dans la police. On voit bien les quelques témoignages qui, à la faveur des manifestations, commencent à s'exprimer, où des policiers disent que des policiers isolés, et ils le disent en se voilant la face, pour qu'on ne le reconnaisse pas, que c'est insupportable au quotidien que d'entendre une culture dans laquelle l'injure raciste est quotidienne. Et donc on a une institution policière qui a banalisé le racisme, qui l'a transformé en culture, et dans laquelle le policier qui ne serait pas raciste aurait du mal, a du mal à rester. On a un taux de démission lors de la première année à la sortie de l'école de police qui est particulièrement importante. On peut faire l'hypothèse que tous ces jeunes qui démissionnent de la police sont ceux qui justement ne supportent pas ce qu'ils entendent dans le commissariat où ils sont affectés, c'est-à-dire ces injures racistes et sexistes. Là, on parle en l'occurrence du racisme, mais le sexisme est une autre réalité de l'institution policière qui est aussi prégnante, c'est-à-dire cette culture de la force, cette culture du rapport à l'autre sexe et du rapport aux concitoyens qui en apparence seraient d'une autre origine, cette idée tout simplement du racisme et du sexisme. Le jeune qui a choisi le métier de policier pour autre chose que cela, eh bien, finit par partir. Et c'est ainsi qu'un système se reproduit aussi, lorsque les éléments qui contredisent ce système ne restent pas. Et donc aujourd'hui, le système policier qui devrait avoir une culture qui élimine les racistes a exactement l'inverse, une culture qui élimine ceux qui ne sont pas racistes. Et donc il ne se transformera pas tout seul.
Police and thieves in the street. Oh.
suite de notre entretien avec Saïd Bouamama, sociologue et membre du Front uni des immigrations et des quartiers populaires. Saïd Bouamama, dans la lignée du mouvement actuel, qu'on peut appeler Black Lives Matter, si on veut, il y a un certain nombre de réactions, et notamment une réaction gouvernementale, avec des annonces ministérielles. Alors comment vous voyez un petit peu les décisions prises par M. Castaner ?
D'abord, les décisions de M. Castaner ne sortent pas du déni. Or, le sortir du déni est la première étape pour qu'on puisse transformer la réalité. Quand il ne sort pas du déni, c'est qu'il a commencé par dire « il n'y a pas de problème de racisme dans la police ». Et une fois qu'il a dit ça, il a montré les limites de sa volonté de transformer la réalité. Pour pouvoir transformer la réalité, il faudrait dire exactement l'inverse. Il y a un problème de racisme dans la police. Ce qu'il ne veut surtout pas dire, il peut préciser que ça ne veut pas dire que tous les policiers sont racistes. Mais ça montre bien l'enjeu aujourd'hui, enfin la volonté ou non de transformer la réalité, ou la peur ou non de transformer la réalité. Le second élément, ils annoncent, c'est une très bonne chose, ils annoncent la fin de la clé d'étranglement. Rappelons aux auditeurs que cela fait 30 ans qu'en France existe un mouvement exigeant la fin des clés d'étranglement, parce qu'il n'y en a pas qu'une, celle-là est supprimée, mais il y en a d'autres, la fin des clés d'étranglement. Et elle vient d'où ? Elle vient des familles de victimes. C'est les familles de victimes qui ont perdu un proche avec des clés d'étranglement, qui ont, depuis 30 ans, demandé à ce que cette pratique-là soit supprimée. Et on propose de la remplacer par quoi ? Par un taser. On a, dans le même temps où on avait un mouvement contre les clés d'étranglement, la revendication également d'interdiction d'un certain nombre d'armes. Et aux États-Unis, les tasers font beaucoup de dégâts. Et on a des morts de tasers aux États-Unis. Et donc, on remplace une pratique dangereuse par une autre pratique dangereuse. En réalité, ce qu'il y a derrière, c'est cette idée de surtout ne pas provoquer la colère des policiers. Ça n'est pas comment faire cesser le danger de mort, c'est comment éviter la colère des policiers, tout en semblant répondre aux manifestants. Et donc, on n'a pas eu d'annonce qui montre une véritable transformation. La seule annonce forte était la disparition de la clé d'étranglement. C'est pour, deux jours plus tard, nous annoncer qu'elle est remplacée par les tasers. On a, en réalité, un certain nombre de personnes qui ont réfléchi, qui ont développé des travaux sur l'usage de la force de l'ordre. On ne les a pas consultés, on n'a pas été voir les associations pour savoir quelles étaient les revendications, quelles étaient les possibilités de transformation. On a pris des décisions dans la seule volonté d'équilibre qui était de calmer la rue tout en ne mettant pas en colère les policiers. Cette politique de mi-figue, mi-raisin ne permet de rien transformer. D'ailleurs, aucun des acteurs n'est satisfait. Les policiers trouvent qu'on va trop loin. Les manifestants trouvent qu'on n'a rien apporté encore aujourd'hui.
Saïd Bouamama, dernière question. Là, on est à quelques mètres du quartier Lille Five et à quelques centaines de mètres d'ici, il y a quelques mois ou quelques années, la mort de Salomé Matisse. Comment vous voyez le cas de ces deux jeunes personnes ?
On est avec Salomé Matisse dans un des scénarios. Il y a quelques scénarios redondants, malheureusement, dans les morts suite à des contacts avec la police. Et là, on est dans un des scénarios les plus récurrents, qui est la mort suite à une course-poursuite. Généralement, ces scénarios-là touchent des très jeunes. Ziad Ibouna, c'est comme ça qu'ils sont morts en 2005. Et donc, ça pose vraiment la question des consignes qui sont données aux policiers sur les courses-poursuites. Faut-il vraiment entamer une course-poursuite lorsqu'on a affaire à des enfants ou à des adolescents ? La question est posée. Quel est le gain pour la société ? Quand bien même on arrêterait deux gamins de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, de 15 ans, quel est le gain pour la société ? Et quand je dis cela, ça ne veut pas dire que je suis pour la disparition de tout contrôle, etc. Je dis juste quelle est l'efficacité au regard des risques qu'il y a aujourd'hui. Pourquoi des risques ? L'argument qui est souvent mis en avant, qui est de dire « mais pourquoi ils se mettent à courir s'ils n'ont rien à se reprocher ?» est un faux argument. D'abord, même s'ils ont quelque chose à se reprocher, on ne peut pas justifier leur mort suite au contact avec la police. Et secondo, s'ils courent, ça n'est pas pour rien. Je dis souvent que moi-même qui ai un certain âge, moi-même qui ai un métier satisfaisant, moi-même qui devrais faire partie de la partie, on va dire, privilégiée de la société, j'ai une appréhension lorsque je croise un policier. Alors que je n'ai rien fait. Que dire d'habitants de quartiers populaires et de jeunes dans les quartiers populaires qui sont dans ces contrôles policiers au quotidien, qui sont dans cette socialisation vis-à-vis de la police dans laquelle ils ont vu un de leurs copains mourir, ils ont entendu, que dire oui, ces jeunes se mettent à courir même quand ils n'ont rien fait. Et ça pose donc la question d'une véritable réflexion sur les besoins de police dans un certain nombre de territoires et de quartiers. A-t-on vraiment besoin de ce type de contrôle systématique, de ce type de course-poursuite, etc. Tant qu'on n'osera pas poser ces questions, et quand je dis ça, je suis conscient qu'on n'en est pas là aujourd'hui, mais quand on n'osera pas, on n'arrivera pas à transformer la réalité. C'est une des raisons pour lesquelles mon association, le Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, met en avant comme revendication, avant même que de faire des propositions, met en avant une revendication toute simple qui est l'idée d'une commission d'enquête indépendante chargée d'un diagnostic sur le racisme dans la police. L'idée étant que ce ne soit des personnes qui ne soient ni en lien avec l'État, ni en lien avec l'institution policière, des personnes à qui on donne carte blanche pour aller investiguer et nous donner un état des lieux du fonctionnement de la police. Bien entendu, elle pourra aller rencontrer les très nombreux sociologues qui ont déjà mis en évidence l'existence d'un racisme policier systémique. Elle pourra aller interroger les syndicats de policiers, etc. Mais l'important, c'est que cette commission soit indépendante. Lorsque ce type de commission a existé dans d'autres pays, on a eu des rapports qui ont permis au moins de repérer les chantiers de transformation. En Angleterre, suite aux émeutes de Londres et de Birmingham, on a eu ce type d'enquête qui a été mise en place et qui a conclu à quoi ? Qui a conclu à l'existence d'un racisme policier institutionnel et qui a donc donné un certain nombre de recommandations qui étaient autant de chantiers sur l'armement de la police, etc. etc. Ça ne suffit pas pour changer les choses, mais ça permettrait de mettre un point final au déni. Et c'est pour cela, avant même que d'avoir des revendications précises, les revendications, on les connaît, les familles de victimes en ont déjà depuis des années, mais il s'agit de faire reconnaître le problème dans toute son ampleur, d'où cette idée d'une commission d'enquête indépendante.
Saïd Bouamama, sociologue, militant antiraciste et membre du Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, un entretien réalisé vendredi 12 juin. Police and thieves in the streets. Oh yeah. Plusieurs rassemblements contre le racisme et les violences policières à signaler dans les environs, d'abord à Arras, un rassemblement à la mémoire de toutes les victimes, organisé devant le beffroi d'Arras, mercredi 17 juin à 18h. Et puis, autre action, le collectif Fédherbe doit tomber, appelle à un rassemblement devant la statue honorant ce qu'il considère comme un criminel colonialiste Fédherbe. Le rendez-vous, c'est Place Richebey, samedi 20 juin à partir de 13h pour réclamer donc, le retrait de cette statue et pour réclamer de manière générale le retrait des symboles du colonialisme et de l'esclavagisme. Plus d'infos sur un site internet qui s'appelle fedherbedoittomber.org. No one tried to stop it in any way. All the peacemakers turned war officer. Et puis toute cette semaine sur Radio PFM, retrouvez la suite de notre semaine Black Lives Matter, émission spéciale, interview et reportage sur le 99.9. In the streets, oh yeah. Fighting the nation with the
station. Police and thief in the street. Oh yeah, star in the nation with the guns and ammunition. Turn war officer.